Mon message aujourd'hui pour vous, c'est récupérer. Je crois qu'on a tous besoin à un moment ou un autre. Et c'est aussi un message qui est donné pour beaucoup, un peu en début de vacances. Peu importe que vous soyez actif, étant encore un peu à l'école ou au milieu d'examen ou presque fini ou tout le reste. Mais on a tous des moments dans la vie. Donc mon message aujourd'hui pour vous, c'est, ça s'appelle récupérer. Je crois qu'on a tous besoin à un moment ou à un autre. Et c'est aussi un message qui est donné pour beaucoup, un peu en début de vacances. Peu importe que vous soyez actif, étant encore un peu à l'école ou au milieu d'examen ou presque fini ou tout le reste. Mais on a tous des moments dans la vie où il faut récupérer. Vous avez remarqué ça? Même si vous voulez profiter de la vie, vous vous couchez tard, vous êtes obligé de vous lever tôt quand même parce que vous êtes obligé d'aller à votre travail ou à vos études. Mais il y a des moments où le corps réclame aussi de pouvoir récupérer. Et c'est essentiel qu'on puisse comprendre comment nous fonctionnons et comment il y a besoin, dans certains moments, de récupérer. Parce que quand on est épuisé, au bout d'un moment, on n'arrive plus à rien du tout. Et je pense que pour certains d'entre nous, ça peut conduire alors, on déprime. Et vous savez, quand on déprime, on n'a pas la joie. On n'a pas la joie et la déprime en même temps. Or, la joie du Seigneur, c'est notre force. Et si on n'a que la déprime, alors on perd toute force, on ne sait plus quoi faire, on ne peut plus réagir. Nous avons besoin de moments où on récupère. Et donc pour ça, on va voir une belle illustration dans la parole de Dieu. Dans 1 Samuel, chapitre 30 et verset 11. C'est presque le dernier chapitre de ce livre de la Bible. Peut-être vous connaissez bien l'histoire, mais pour moi c'est une histoire qui est vraiment riche d'enseignements pour nous. C'est quand David n'était pas encore roi d'Israël et que la ville où il habitait, qui s'appelait Tziklag, une fois qu'il était absent avec tous ses hommes de guerre, a été attaquée. Ils ont tout emmené, toutes les femmes, tous leurs enfants, ils ont pris tous les biens qu'ils avaient, ils ont tout pris. Et donc David a eu, on va voir dans l'histoire ce qui s'est passé, à un moment il a eu quand même une réaction positive que nous devons tous avoir. Il s'est tourné vers Dieu, il a demandé conseil, il s'est fortifié spirituellement à nouveau, il a poursuivi les ennemis. Et je vous dis tout de suite la fin de l'histoire, parce que c'est une histoire qui se termine bien. Et il nous est dit qu'il a tout récupéré. C'est ça que ça veut dire. Il a tout récupéré ce que l'ennemi lui avait pris. Et non seulement ça, mais encore il a ramené du butin. Et parce qu'il a ramené du butin, il a encore fait des distributions autour de lui, à tous les gens du peuple d'Israël, dans certaines villes qui sont nommées. Il a dit, voilà, ça c'est une part du butin de David. Donc il nous est dit qu'à la fin de l'histoire, David avait non seulement plus que ce qu'il avait avant, mais il avait encore de quoi faire des distributions. Alors pour nous, c'est une belle illustration. On parle des fois, et à raison, on parle du fait que nous ayons une alliance meilleure. Si des gens dans l'ancienne alliance pouvaient faire ça, s'approcher de Dieu, entendre de lui, recevoir des directions et rebondir dans n'importe quelle situation, alors nous aussi, je crois qu'on a des encouragements à trouver dans cette histoire. Vous voyez pas? Alors, on va voir ça ensemble. La lecture de 1 Samuel 30. Lorsque David arriva le troisième jour à Tziklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tziklag. Ils avaient détruit et brûlé Tziklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jisraël, Abigaïl de Carmel, la femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Akimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués, pour passer le torrent du Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David et lui firent manger du pain et boire de l'eau. Ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et deux masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu ? » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens, sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant, dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout, et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, « C'est ici le butin de David. » David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent du Bézor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se portaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'ils les emmènent et qu'ils s'en aillent. » Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. » Et il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. De retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. « Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. » Il fit ainsi des envois à ceux de Bethel, ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aroer, à ceux de Sifmoth, à ceux d'Eshtemoa, à ceux de Rakal, à ceux des villes des Gérachmélites, à ceux des villes des Kéniens, à ceux de Horma, à ceux de Kor-Hachan, à ceux d'Attac, à ceux d'Hébron, et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. Amen. On a lu ensemble tout un chapitre de la Bible, et une belle histoire, et surtout c'est une histoire vraie, c'est pas une fable. Et donc, ce que je voudrais vous dire à ce sujet, c'est vraiment cette notion de récupérer. Quand on est dans une situation des fois difficile, nous pouvons rebondir. On peut de nouveau revenir dans la course, même être dans la course. Je voudrais juste aussi citer cette expression de l'apôtre Paul qui compare la vie chrétienne à une course dans le stade. S'il a donné cette illustration aux Corinthiens, ça veut dire que ça leur parlait. Le monde grec, on peut dire comme le monde actuel, quand on entend que un match de foot de la Coupe du Monde est suivi par 1 milliard de personnes sur Terre. Je trouve que c'est quand même un chiffre impressionnant. ne veut pas dire que c'est un non-événement. Il y a des fois des choses qui se passent, personne ne sait que ça s'est passé. Mais là, ça a un impact. Dans le monde grec, les Jeux olympiques, c'était un événement extraordinaire qui attirait et captait l'attention. Donc, quand l'apôtre Paul parlait de ces athlètes qui se préparent, il disait dans 1 Corinthiens 9, 24, « Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. » C'est l'exhortation pour les chrétiens. Vous devez réaliser, vous êtes aussi dans une course. Vous êtes aussi en train de faire comme font ces sportifs dans les stades, mais d'une façon différente. Alors il compare, il dit, ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Donc il dit, voilà, je m'applique une certaine discipline de vie parce que je veux vraiment remporter cette course que Dieu me donne. Alors on peut aussi penser par rapport aux chrétiens. Je crois qu'il y a des chrétiens, on pourrait surnommer les chrétiens Maranatha. Ils courent comme s'ils couraient un sprint. Ils donnent un effort dans leur vie spirituelle pour un temps, et puis après ils sont essoufflés, et puis ils sont peut-être dans un état, ils disent juste, Maranatha, ça veut dire viens Seigneur, prends-moi et que ça soit terminé parce que j'en peux plus. Mais nous avons besoin de réaliser que nous sommes des chrétiens qui devons courir le marathon spirituel. Il faut durer dans la distance et durer aussi dans le temps. Il faut être capable de terminer la course. Pas seulement de commencer et de courir le 100 mètres plus vite que tout le monde, parce qu'il y a besoin de rester jusqu'au bout. Donc on peut dire que aussi, on a besoin de récupérer. On ne peut pas dire je m'arrête et puis plus tard je continue. On a besoin des fois dans notre vie spirituelle de ce second souffle. On parle de second souffle. Des fois on est essoufflé et tout à coup on a un moment où ça va de nouveau. On peut encore faire porter son effort. Si vous êtes essoufflé spirituellement, là, je vous dis que vous pouvez avoir ce second souffle de la part de l'Esprit de Dieu. Ça peut des fois prendre un instant, une seconde, vous recevez une parole de Dieu et ça vous remet dans la course et dans la bonne direction. Vous vous rappelez que Élie aussi a été découragé, il était assis, il n'en pouvait plus, il s'est plaint devant Dieu et il a dit « ça suffit, j'en peux plus, je vais mourir ». Et il nous est dit qu'il a reçu une nourriture surnaturelle. Avec ça, il a marché pendant 40 jours. Et donc, nous pouvons recevoir des forces spirituelles extraordinaires de la part de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi ne pas lui faire confiance quand on n'en peut plus ou qu'on est simplement lassé? On n'a pas besoin d'être au bout du rouleau, forcément. Mais des fois, juste un peu de lassitude et puis... les choses spirituelles, on tiédit un petit peu, on se relâche un petit peu. Et on a besoin à ce moment-là de récupérer et de dire non, je continue. Rentrons un petit peu dans notre histoire. Alors, David avait un moment difficile parce qu'il a été chassé d'une certaine façon par Saül de l'héritage d'Israël. La promesse est attachée au pays. La promesse de Dieu est attachée, par exemple, à l'endroit où il vous dit d'aller. La promesse était attachée pour les gens de la parole de Dieu à des endroits que Dieu leur avait dit. Il avait dit à Moïse, voilà, tu vas me rencontrer là-haut, sur la montagne, sur le Sinaï. Pour Abraham, la promesse était pour le pays du Canaan. Il aurait pu dire, mais je préfère Dieu que tu me bénisses dans un autre pays. Mais ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas à nous de décider. Si Dieu le décide, c'est qu'il a un plan, qu'il a un projet. Pour nous aussi, il veut nous bénir des fois dans un certain lieu. Si vous n'y êtes pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous aime plus, mais vous n'êtes pas là au moment où il apporte le cadeau. Alors, il ne peut pas vous le remettre. C'est un peu des choses qui se passent comme ça. David, à ce moment-là, il était obligé d'être loin de là où Dieu a attaché sa promesse. Il était, si on regarde sur la carte, Ziklag, c'était juste en bordure dans le sud d'Israël, là où les Philistins étaient demeurés en grand nombre, malgré le fait que Dieu avait dit qu'il fallait... les chasser du pays. Mais comme Israël avait fait plein de compromis et laissé beaucoup d'ennemis dans le pays, il y avait des zones, on peut dire, entières qui étaient sous le contrôle de l'ennemi. C'est l'image aussi de notre vie spirituelle. Si Dieu dit qu'il faut nettoyer le temple du Saint-Esprit que vous êtes et qu'il y a des zones d'ombre, vous laissez des ennemis dans la place, c'est là que l'ennemi a une prise. C'est là que la volonté de Dieu ne peut pas pleinement s'appliquer. Donc David était aussi dans une situation difficile, non pas que lui-même était en situation de péché, mais c'était à cause des circonstances. Des fois, ce n'est pas des choses à cause de nous, mais c'est simplement les circonstances. On ne vit pas un monde qui est toujours facile, puisque c'est un monde plein d'opposition, plein de choses qui veulent aussi nous détruire. Donc David est dans cette situation, il habite Siklag, il était parti parce que les Philistins se rassemblaient pour la guerre. On ne sait pas ce que David aurait fait, mais toujours est-il que les princes des Philistins ont dit « Ah non, David ne peut pas être au milieu de nous pour attaquer Israël, parce que c'est lui qui, à l'époque de Saül, dirigeait les armées de Saül. Il va peut-être se retourner contre nous et retrouver la faveur de son maître. » Donc ils ont dit « Tu viens pas avec nous à l'armée, tu retournes. » Donc il retourne dans sa ville et c'est là qu'il trouve la ville dévastée. Il nous est dit « Détruite, brûlée. » Et tous les gens sont prisonniers. Et ce qui est remarquable quand même, parce que quand une armée vient attaquer une ville, qui détruit complètement la ville et brûle la ville, ici la Bible nous dit qu'il n'avait tué personne. Pas une seule personne de toute cette ville n'a été tuée. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire ça? Moi je trouve que c'est vraiment surnaturel. Et pour moi, ça doit nous parler aussi dans notre propre vie. Il y a des choses, des fois, qu'on dit, là, vraiment, l'ennemi a fait des ravages dans ma vie, il a détruit cette partie, ou il y a des domaines où je suis sous pression, où ça va difficilement. Et on a l'impression que là, vraiment, c'est cuit, c'est mort. Et ici, la parole de Dieu nous dit, rien n'est jamais vraiment mort pour Dieu. Il n'avait tué personne. Pour moi, ça me parle dans ce sens. Jésus a dit un moment aux Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection, il a dit, vous êtes grandement dans l'erreur parce que pour Dieu, tous sont vivants. Qu'on soit physiquement dans notre corps ou qu'on soit plus dans le corps, qu'on soit de l'autre côté, tout le monde est vivant. C'est-à-dire, tout le monde a une existence. Que vous soyez physiquement ici présent, que vous soyez plus dans votre corps et que vous soyez de l'autre côté, bon, de l'autre côté, vous avez encore plusieurs possibilités, mais vous êtes vivant parce que Dieu vous connaît. Il sait exactement votre adresse. Et ici aussi, le fait qu'il ait tué personne, ça nous parle que si quelqu'un considère qu'une chose est morte, peut-être ça peut être un projet, un désir que vous aviez, ou une relation qui est brisée, ou n'importe quoi, vous avez l'impression que c'est mort, mais pour Dieu, ce n'est pas mort. Et rappelez-vous de Abraham. Abraham, il nous est dit que quand il a offert Isaac, il ne s'est pas posé de question. Comment Dieu va-t-il faire? Il savait une seule chose. Dieu m'a promis un fils. Ce fils, c'est Isaac. Au travers de lui, la promesse de Dieu va s'accomplir. J'offre mon fils Isaac. Ce n'est pas mon problème ce que Dieu va faire. Je vais le retrouver par une sorte de résurrection, nous dit la Bible. Voilà quelle était la pensée d'Abraham. Sa pensée, c'était ça. Ça ne peut pas vraiment mourir parce que Dieu s'en occupe. Ça peut nous encourager aussi pour quelqu'un, peut-être vous priez pour quelqu'un, vous aimeriez que quelque chose fleurisse dans sa vie spirituellement. Et vous savez, certains chrétiens, la Bible dans l'Apocalypse, le Seigneur leur fait ce reproche. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Alors Dieu n'est pas intéressé de dire pour quelqu'un c'est terminé, tu es mort, non. Il est intéressé par la résurrection. Il est intéressé par donner la vie là où c'est mort. Parce que c'est le Dieu de la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, tous sont vivants pour ce qui concerne Dieu et il y a toujours une possibilité. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais même sachant ça, sur le moment, on est dans une grande détresse peut-être et on ne sait plus où on en est. Il nous est dit, verset 4, « Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. » On pourrait dire, David, ils ont pleuré. Rendez compte, les grands guerriers. Bah, David était un héros, c'était un homme de guerre. Il nous est dit qu'avec tous les exploits qu'il a fait et les hommes qui étaient avec lui, on n'a pas le temps de détailler. Par exemple, il en avait avec lui un homme a brandi une lance sur 800 hommes et les a tués en une seule bataille. Voilà les genres de guerriers qui avaient été avec lui. Donc ce n'était pas des pleurnichards. C'est qu'ils ont simplement, ils étaient dans une profonde angoisse et détresse. Et je crois que chacun d'entre nous aussi, nous avons des situations où nous avons le droit de pleurer. Vous avez le droit de pleurer devant Dieu. Vous avez le droit de répandre votre âme et que c'est une bonne chose. Moi, je crois que Dieu nous a donné nos émotions, à la fois pour le célébrer, pour nous réjouir en lui, mais des fois aussi pour nous libérer et simplement dire devant Dieu, voilà tout ce qui ne va pas. Alors, pleurez un bon coup et puis ensuite, laissez Dieu agir. Quand je dis pleurer un bon coup, ça ne veut pas dire passer votre vie à pleurnicher. Il y a une grande différence entre pleurer et pleurnicher. Et donc, ils ont été à pleurer jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Mais maintenant, voilà la chose qui se passe. David, verset 6, fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Il faut maintenant faire attention. Nous avons un temps dans notre vie où nous pouvons être attristés. Nous pouvons pleurer. Et puis, il y a un temps pour dire, attention, il ne faut pas que maintenant, à cause de cette détresse, je donne l'avantage à l'ennemi dont le but n'est que de nous détruire pour laisser maintenant l'amertume s'installer. Et des gens parmi David n'étaient pas tellement spirituels et ils se sont laissés aller. Et donc, ils pensaient qu'en lapidant David, ça allait arranger une chose. Bien sûr que non. Mais sur le moment, on peut être conduit à faire des choses qui sont mauvaises. La Bible nous dit dans le livre de Job, la souffrance te porte vers le mal. Quand quelqu'un souffre, il souffre lui-même et il fait aussi souffrir les autres par le mal qu'il peut faire. Parce que c'est ce qui est en train de dominer sa vie. Mais David avait une réaction. Il nous est dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Parmi tous les gens de David, tous n'avaient pas cette relation avec Dieu que lui avait. Beaucoup étaient avec David. On sait d'ailleurs comment sa troupe était composée. Au départ, c'était des gens qui étaient mécontents, ceux qui étaient en révolte, ceux qui avaient des dettes. Il avait une drôle de troupe au départ. Et on ne pouvait pas toujours compter sur lui. Mais lui, il avait une relation unique et personnelle avec son Dieu. Et ça, nous sommes tous appelés à le faire. Il y a une part ici qu'on voit que le leader, et nous sommes appelés à être des leaders spirituellement, hein, tous. On doit avoir des gens qui regardent à nous, même si c'est juste nos enfants ou un conjoint ou quelqu'un encouragé. On est appelés à être des leaders. Dans cette façon de conduire les autres, on peut avoir des moments de solitude et même des moments où les autres attendent tout de nous, même trop. Et donc, il y a des situations où le peuple le rendait lui-même responsable. Il n'était pas responsable de l'attaque des Amalécites, c'est évident. Mais c'est comme ça, des choses qui se passent dans l'âme humaine. Mais David reprit courage en s'appuyant sur son Dieu. Il savait auprès de Dieu, il y a une solution. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Sinon, on veut transposer ici. On peut transposer de deux façons. Pour le croyant, reprendre courage en s'appuyant sur Dieu, ça veut dire « je cherche une réponse auprès de Dieu ». Comment est-ce qu'ils cherchaient la réponse auprès de Dieu à l'époque? Ils allaient consulter le sacrificateur. Pas comme on consulte une voyante, mais Dieu avait réellement établi une alliance avec le peuple d'Israël. J'étais très intéressé en visitant à Jérusalem. Il y a un musée qui s'appelle le musée du Troisième Temple, avec tous les préparatifs et des expositions sur les maquettes, sur la construction du temple, comment il est prévu et tout ça. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont montré une magnifique représentation de l'éphod. L'éphod, c'est quoi? C'était le vêtement que portait le souverain sacrificateur quand il se présentait devant Dieu. Et sur ce, il y a tous les détails du pectoral. Pectoral, ça veut penser à pectoraux, hein, c'est les muscles de la poitrine. Donc le pectoral, c'est ce qui était devant. Et sur ce pectoral étaient fixées 12 pierres. Chaque pierre précieuse portait le nom d'une des tribus d'Israël. Et avec les différents noms des tribus d'Israël gravés sur ces pierres, vous aviez tout un alphabet qui était sur le pectoral. Et lorsque il y avait une question qu'on adressait à Dieu, à ce moment-là, on invoquait l'Éternel. Et Dieu se manifestait d'une façon surnaturelle et les pierres précieuses scintillaient d'une manière particulière au niveau des lettres. On a l'impression d'être dans une histoire un peu magique, merveilleuse. Mais vous savez, toute magie n'est que le reflet du vrai surnaturel de Dieu. Mais ces choses sont réelles et ont réellement existé. Et c'est ainsi qu'il y avait des messages qui étaient donnés par Dieu et que le souverain sacrificateur pouvait transmettre au roi. Et en l'occurrence, David avait reçu l'onction de la part de Dieu. Il était en position, parce qu'il a été choisi par Dieu, de pouvoir recevoir des réponses. Alors il va ici vers le sacrificateur Abiathar. Si vous vous rappelez, Abiathar était le seul survivant de toute une famille et lignée de sacrificateurs qui était dans une ville sainte qui s'appelait Nob. Et parmi les 70 serviteurs de Dieu, ils ont tous été tués et un seul a pu s'échapper, c'était Abiathar. Mais il a emmené l'éphod, ce qu'il y avait de plus précieux. Ainsi, dans le camp de David, l'éphod était présente. On peut dire, dans le camp de David, il y avait la capacité d'invoquer Dieu et de recevoir des réponses de lui. Nous savons que nous avons plus maintenant. Nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais pour eux, c'était déjà pas mal d'avoir le Dieu vivant qui communique avec eux, qui leur parle. Et ainsi, David pose des questions. Il consulte l'Éternel. « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je ? » L'Éternel lui répondit. Peut-être que vous n'aviez jamais prêté attention. Comment Dieu a-t-il parlé? Dans un songe, dans une vision, dans son cœur, etc. Ben, vous avez la réponse aujourd'hui. Il a répondu par l'éphod. Parce que l'éphod était là. Il a dit « Apporte-moi l'éphod ». Il voulait ce support. Et Dieu était d'accord avec, puisque c'était le Dieu de l'Alliance. Il avait donné la description à Moïse. Il a dit « Voilà exactement comment tu vas faire l'éphod ». Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Dieu n'est pas approximatif. Il ne dit pas « Ça fera joli sur la poitrine du souverain sacrificateur, toutes ces jolies pierres ». Non, c'était plus que ça. Il voulait montrer « Je suis présent, je parle à mon peuple, je reconnais toutes ces 12 tribus et je me manifeste ». Et l'Éternel lui répondit « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras ». Et ça, c'est une parole prophétique pour chacun d'entre nous. Si vous êtes fatigué, essoufflé, si vous avez besoin de récupérer, la parole de Dieu aujourd'hui pour vous, c'est « Poursuis, car tu atteindras ton but que tu veux et tu délivreras ». Non seulement tu vas vivre une délivrance, mais tu seras aussi un sujet de délivrance. Alors dites-le à votre voisin « Poursuis ». Car tu atteindras et tu délivreras. Poursuis quoi? Poursuis ce que tu fais. Peut-être à quelqu'un qui se pose des questions, on peut dire poursuis tes études. Parce que des fois, les jeunes gens ou jeunes filles peuvent se poser la question, jusqu'où je vais aller, ils sont pressés d'aller dans la vie active ou d'autres choses. Dieu a peut-être un projet pour toi, va plus loin. Poursuis tes études, poursuis ta carrière. Quelle carrière? Dieu a peut-être un plan pour toi pour que tu sois dans une position où tu puisses agir, influencer d'autres. Poursuis ta carrière. Si c'est pas une carrière professionnelle, poursuis ta carrière, celle qui est décrite dans Hébreux 12, où il nous est dit la chose suivante. On va regarder. Hébreux 12. Encore une vision d'un stade, on pourrait dire, dans lequel nous sommes en train de faire notre performance d'athlète. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Imaginez un stade, vous avez des dizaines de milliers de spectateurs, ils fixent leur regard sur une personne peut-être qui court. Rejetons tout fardeau. On imagine que quelqu'un qui court, il n'a pas besoin d'avoir un fardeau. Hein, parce que c'est tout ce qui alourdit à ce moment-là l'empêche de courir la course. Et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance, pas juste traînons les pieds, pas juste marchons doucement, courons avec persévérance. L'apôtre Paul disait à la fin de sa vie, j'ai achevé la course. C'était une course, réellement. La carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Les regards sur Jésus. Quelqu'un qui court a besoin de regarder devant lui, de courir. Et il est arrivé que dans certaines courses, on a vu des gens perdre la course juste à cause d'une fraction de seconde. Ils ont tourné la tête pour voir si celui qui était dans la ligne d'à côté était en train de le dépasser ou non. Ça suffit pour leur faire perdre une course. Et pour nous aussi, ça peut être une image. On regarde à droite, à gauche ou même derrière. Comme ça, on ne peut pas courir la course. Nous avons besoin de fixer nos regards sur Jésus, sur ce qu'il nous montre et la façon dont on veut y aller jusqu'au bout. Donc, poursuis ce que tu fais. Continue. Alors, ils arrivèrent au torrent de Bézor. Il se met en marche avec 600 hommes qui étaient avec lui. Voilà ce qui se passe. Au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Un groupe d'hommes s'est arrêté. Et ça, c'est important pour nous aussi de réaliser que dans l'Église, on n'est pas tous pareils. Il y a ceux qui sont les pionniers, ceux qui ouvrent le chemin. Il y a ceux qui suivent, qui soutiennent le travail. Et il y a aussi des personnes qui restent en arrière. Alors, rester en arrière, c'est intéressant pour nous. Parce que si nous sommes loin de l'action, loin de là où ça se passe, nous sommes en danger spirituel. Il n'est pas dit ici que certains se sont arrêtés. On va voir plus tard, il nous est dit, 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. On n'est pas là pour juger maintenant ceux qui sont fatigués, qui ne pouvaient pas courir. Mais il nous est dit, ceux qui se sont arrêtés, ils étaient déjà en arrière. Ils étaient déjà distancés. Et ça doit nous parler pour nous spirituellement. Ceux qui se laissent distancer, ceux qui ne sont pas là où il y a l'action. Vous avez besoin d'être sur le front. Il n'y a pas dans le peuple de Dieu quelques-uns qui sont sur le front et d'autres qui restent à l'arrière. Ça n'existe pas. Vous êtes chacun sur une position de front par rapport à votre propre vie spirituelle. Vous le réalisez ça? Vous êtes chacun confronté. Il n'y a pas, par exemple, un missionnaire, ah oui, lui, il est sur le front. Ou une personne qui est dans l'intercession, ah oui, elle est sur le front. Ou peut-être un pasteur ou un évangéliste, eux, ils sont sur le front. Ça n'existe pas, ça. Chacun d'entre nous, nous sommes sur le front. Donc, le fait de rester en arrière, le fait de ne pas être dans l'action, de pouvoir exercer notre foi, d'être actif spirituellement, nous met en danger. 2 Samuel 11 nous parle de la chute du roi David. Vous savez, quand il a été séduit par Bathsheba, parce qu'il nous est dit, c'était le temps où les rois se mettaient en route pour la bataille. Et David est resté à Jérusalem. Quand les rois se mettent à la bataille, l'armée attend que le roi soit devant l'armée. C'est ça qui leur donne du courage. C'est ça qui leur dit, voilà, on va suivre notre chef. Donc, il est nécessaire qu'il tienne sa place. Et quand il reste à la maison, tranquillement, oisif, alors il est dans une situation de danger. Nous avons donc besoin de réaliser ça. Nous avons besoin d'être tous, non pas en arrière, mais là où ça se passe. D'où l'intérêt d'avoir ce second souffle, d'avoir une capacité de récupération pour toujours pouvoir rester dans l'action. Vous voyez? Alors, ils poursuivent. On a vu l'histoire. On ne va pas rentrer dans les détails sur certaines choses. On va encore une fois s'intéresser à la bataille elle-même. Il nous est dit, quand David a rattrapé cette troupe, David, au verset 17, les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Vous avez entendu? Depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Du lendemain. 2 jours et une nuit de bataille. Il fallait être en forme, hein? Ce n'est pas juste une petite course de quelques minutes et puis après c'est fini. C'était, comme je vous l'ai dit, hein, c'était des guerriers. Aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Donc il a tout pris, tout ce qui leur avait été volé, mais en plus, il a maintenant récupéré tout le butin que les Amalécites avaient fait dans toutes les actions qu'ils avaient entreprises. Parce qu'ils n'avaient pas seulement attaqué Tsiklag, mais aussi toute la région, tout ce qu'ils ont écumé. Et donc maintenant, ils arrivent à cet endroit où il y avait, verset 21, David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Bézor. Et c'est là qu'on voit la différence entre David et certaines autres personnes de sa troupe. Le cœur de David était différent. Malgré certaines choses qu'on sait qui n'étaient pas parfaites dans la vie de David, même certaines qui étaient horribles, hein, parce qu'il a quand même bien ingénieusement orchestré le meurtre de la femme qu'il convoitait. Donc, malgré ça, David a toujours gardé ce surnom que c'était l'homme dont le cœur était agréable à Dieu. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et là, on voit une illustration. Il ne dit pas, oui, c'est vrai, ces hommes, ils ne nous ont pas accompagnés, ils n'ont pas mené la bataille avec nous, maintenant, ben, ils ont droit à rien du tout. Il vient vers eux, il nous a dit, quand il est arrivé, ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. David avait vraiment, il n'était pas seulement un berger de formation, mais il avait aussi un cœur de berger. Malgré le fait qu'ils n'étaient pas allés avec lui, il était en souci pour eux. Il avait à cœur leur bien-être. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et ça, c'est valable pour nous aussi. Quelqu'un a dit une fois que l'Église est la seule armée où on achève les blessés. Et nous avons besoin de réfléchir de ce que nous faisons de ceux qui sont blessés dans le corps de Christ. Quelqu'un qui est sur la touche, quelqu'un qui est découragé, dit pas, bon, c'est bien fait, il n'avait qu'à faire ce que j'ai dit, il n'avait qu'à, et toujours il n'y avait qu'à, et il faut que... Et non, il y a une situation où nous savons, ces gens n'étaient pas capables. Nous devons réaliser que dans le corps, comme je suis fait, il n'y a pas la même capacité. Quand je veux soulever quelque chose, vous savez que des fois j'ai besoin de prendre toute ma main, je ne peux pas juste soulever du petit doigt tout seul. C'est parce que toute la main a plus de force qu'un petit doigt tout seul. Certaines personnes n'ont pas les capacités comme d'autres, et Dieu le sait. Et vous savez que chacun sera jugé, non pas en fonction du voisin, mais en fonction de lui-même et de ce qu'il aura reçu et de ce qu'il en aura fait. Dieu est un Dieu juste, ne vous inquiétez pas. Et cessons absolument de nous comparer sans cesse aux autres. Ces gens-là étaient trop fatigués. Peut-être qu'ils avaient des choses qu'ils auraient pu faire autrement. Il y a des gens qui sont fatigués dans le corps de Christ, et on ne peut pas dire, oh, le pauvre, il est fatigué. Parce que la Bible nous dit aussi dans Ésaïe 57, 10, à force de marcher, tu te fatigues, mais tu ne dis pas, tu renonces, c'est un reproche de Dieu. C'est-à-dire, si tu marches dans la chair et que tu te diriges dans une direction qui n'est pas celle de Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver? Ben, tu vas être fatigué. Alors, tu devrais t'arrêter et dire, pourquoi je suis fatigué comme ça? Peut-être je suis dans la mauvaise direction. Peut-être je marche dans la chair. Peut-être je devrais reprendre la direction de Dieu. Vous voyez? Des fois, il faut aussi être honnête et voir quelles sont nos responsabilités. D'autres fois, ça peut être, pourquoi je suis fatigué? Peut-être parce que je n'exerce pas ma foi. Il y a dans Ésaïe 40, verset que j'aime beaucoup m'appuyer dessus, on a souvent besoin de ça. Il nous est dit que Dieu donne, verset 29, de la force à celui qui est fatigué. Qui croit ça? Qui se repose seulement sur lui-même et sa nuit de repos? Des fois, on a besoin de plus qu'une nuit de repos. On a besoin de la force de Dieu. Parce qu'il y a toutes sortes de forces spirituelles qui s'opposent à nous. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les adolescents, dans l'image de la Bible, c'est vraiment ceux qui devraient être pleins d'énergie et infatigables. Et donc, dans les camps chrétiens, il y a beaucoup d'animateurs, des fois, qui racontent combien c'est difficile de gérer ces camps parce que les adolescents se fatiguent jamais, ils aiment profiter pleinement de la vie. Mais ici, il nous dit, les adolescents aussi sont capables de se fatiguer, de se lasser. Même les jeunes hommes qui peuvent chanceler, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Comment est-ce possible ça? Seulement par un miracle de Dieu. Il est à notre disposition et moi je veux en prendre ma part. Donc tout le monde n'a pas la même capacité, tout le monde n'a pas les mêmes talents. Peut-être ils étaient responsables de leur état, peut-être qu'ils ont traîné les pieds, qu'ils étaient en arrière, ou peut-être tout simplement leur capacité était limitée. Mais qu'est-ce qui est important dans l'histoire? Et David avait un cœur selon Dieu, un cœur qui était agréable à Dieu. Et il voit là un besoin, il voit une détresse. Et plutôt que de dire, ils n'auront rien du tout, il voit là qu'il y a besoin de partager la bénédiction de Dieu, même avec ceux qui n'ont pas été au combat comme lui. Donc, pour nous aussi, nous avons besoin de réaliser que ce que nous avons reçu, là en l'occurrence, c'est le butin de David, c'est Dieu qui nous l'a donné. Voyez, les gens qui étaient avec David avaient encore cette mentalité. Ce que nous avons obtenu maintenant, c'est par la force de nos bras, par nos batailles, par nos armes. On a repris à ces Amalécites tout ce qu'ils nous avaient volé. Mais David avait une autre conception. Bien qu'il était aussi un guerrier, mais sa conception c'était « Si j'ai pu acquérir quoi que ce soit, c'est parce que Dieu me l'a donné. » David dit, verset 23, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. » Vous voyez, il le voyait comme un don de Dieu. « Car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. » Ce n'est pas précisé ici, mais moi je suis persuadé que dans l'armée de David, il n'y en avait pas un qui manquait à la fin de la bataille. 2 jours et une nuit de bataille, je suis sûr qu'il n'y en avait pas un qui manquait. Si Dieu a pu garder Tsiklag, que personne ne soit tué, il a certainement encore gardé toute l'armée de David, conduit par l'esprit, par une manière surnaturelle. Vous imaginez, c'est formidable. C'est des scores extraordinaires. D'un côté, vous avez 0 blessé, 0 mort, et de l'autre côté, ils sont presque tous morts, sauf les 400 qui se sont enfuis à dos de chameau. C'est vraiment des choses extraordinaires, et David savait voir le miracle de Dieu quand il l'avait devant ses yeux. Alors, David a une attitude qui est vraiment admirable. On peut dire qu'il savait reconnaître Dieu. Et pour nous aussi, ça doit être une ligne de conduite très importante. Proverbe 3, peut-être vous le connaissez bien, alors appliquez-le. Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Reconnais Dieu dans les voies que tu es en train de prendre. Vérifie, on peut dire aussi comme ça, vérifie que Dieu est bien dans le chemin que tu es en train de prendre. Vérifie que c'est bien le bon chemin, celui qu'il t'a indiqué. On peut le tourner de plusieurs façons. Et dans le mot « reconnaître », il y a « connaître » et « re ». Ça veut dire que pour reconnaître Dieu dans tes voies, il faut d'abord que tu connaisses Dieu. D'accord ? Pour reconnaître quelqu'un, ça veut dire quelqu'un que vous avez déjà connu, vous n'avez pas vu depuis longtemps, et puis vous le revoyez, vous le reconnaissez. Et c'est la même chose. David n'aurait pas pu reconnaître Dieu s'il n'avait pas connu d'abord avant. C'est pour ça qu'il nous a dit, certains hommes, ils étaient quoi ? Il nous a dit, vils et méchants. Il avait dans sa troupe des gens qui étaient vils et méchants. Alors ça, c'est sûr que ce n'est pas très agréable d'avoir des personnes comme ça. Donc, on termine par cette pensée que David dit, la part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Alors peut-être quelques-uns diront, ah, c'est pas juste, etc. Dieu a dit, est-ce que tu vois d'un mauvais œil que je ne sois bon? Quand vous êtes béni de Dieu, vous devez être comme Dieu, généreux avec ceux qui sont autour de vous. Et ici, il ne nous est pas dit que la part doit être la même pour ceux qui sont sur le champ de bataille et ceux qui n'ont rien fait. Parce qu'ils ont quand même fait quelque chose. Ils n'étaient pas capables d'aller jusqu'au bout, mais ils sont restés près des bagages. En surveillant les bagages et en permettant aux autres hommes d'être déchargés de tout fardeau, ils ont quand même contribué d'une certaine façon à la bataille. Ce n'était pas juste un acte gratuit de générosité de David. C'était aussi reconnaître, même serait-elle si petite, une action de la part de ces hommes. ils sont restés près des bagages. C'est aussi important de comprendre que d'autres n'ont peut-être pas un ministère qui, pour nous, est spectaculaire, mais ils ont leur importance. Et il nous est dit que cette chose est devenue une loi et une coutume en Israël. Si vous avez une position devant Dieu, si vous avez une position d'autorité, vous connaissez Dieu, les choses que vous faites deviennent alors des coutumes, des choses que d'autres vont faire aussi. Ils vont imiter. Et même, il nous est dit ici, une loi. Peut-être que vous n'avez pas la capacité de promulguer des lois, mais si vous marchez dans l'amour, vous êtes en train de démontrer une loi de l'amour qui marche, et à ce moment-là, peut-être d'autres auront envie aussi de marcher dans cette voie. Donc, gardez cette vision. Cherchez à être une source de bénédiction. Pour cela, il faut être en forme. Alors, prenez du temps pour récupérer. Récupérer, on parle de la récupération. Certains récupèrent des choses, d'autres les jettent, eux ils les récupèrent. Alors, ce que certains peuvent mépriser, vous pouvez peut-être y trouver encore des choses valables. Récupérer, ça peut aussi être prendre à d'autres pour s'en servir. La récupération, en politique, on parle de récupération. Quand quelqu'un se saisit d'un événement, il le récupère et il le rajoute à ses idées à lui. Hein? Et ainsi, on a aussi pu prendre cet exemple de... par exemple, du match de foot, de ceux qui font du travail de récupération des ballons. Parce qu'ils sont là à travailler. Ce n'est pas eux qui marquent le but, mais si personne jamais passe le ballon vers l'avant, il n'y aura pas non plus de but marqué. Donc, il y a du travail important pour la récupération. Vous n'allez pas marquer de points spirituellement dans votre vie si vous ne savez pas travailler dans ce domaine de la récupération. Donc, apprenons à racheter le temps, rattraper les années perdues, parce qu'il y a des promesses de Dieu. Il a dit, je vous donnerai de nouveau les années qu'ont dévoré le Élec, le Jazi, le Gazam, c'est toutes ces insectes qui dévoraient les récoltes, et il y a une promesse de Dieu. Cette promesse est dans le livre de Joël, au chapitre 2, vous pouvez le lire, et cette promesse fait référence à l'événement de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu, où il y a eu des manifestations surnaturelles. Donc nous sommes dans cette situation. Cette promesse, elle est pour vous. Elle est pour moi. Et Actes des Apôtres, au chapitre 2, Pierre a donné cette exhortation. Il a dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, ça c'est nous tous, hein, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Voilà, bonne récupération. Alors, pendant les vacances aussi, je crois vraiment les vacances, profitez-en au maximum, mais ne confondez pas récupération et relâchement.